L'Inquisition avec Jean-Pierre Dedieu, historien. Jean-Pierre Dedieu, qui a 40 ans, est chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique en France. Jean-Pierre Dedieu est un spécialiste de l'Inquisition. Il a publié assez récemment, aux éditions du Cerf, une synthèse remarquable des découvertes récentes sur cette question brûlante. Jean-Pierre Dedieu est interviewé à Paris par Marcel Brisebois.
Jean-Pierre Dedieu, vous venez d'écrire un ouvrage intitulé « L'Inquisition ». Mais il me semble que le mot « inquisition » est un mot vague et qui décrit une réalité extrêmement vaste. Quand on parle d'inquisition, de quoi parle-t-on ?
Au sens technique, quand on parle d'inquisition, on parle d'un tribunal dont les juges tiennent leur pouvoir du pape pour juger ce qu'on appelle des hérétiques. L'hérésie ayant une définition qui varie selon les époques et les lieux. C'est le sens technique du mot.
Quand a commencé l'Inquisition ?
Alors, au sens technique, incontestablement au début du XIIIe siècle. Les historiens évaluent cela aux alentours de 1231. Ceci dit, il n'y a pas eu un acte par lequel le pape a dit « je vais créer une Inquisition ». Les éléments constitutifs de l'Inquisition se sont mis en place lentement au cours de la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle et vers 1230, on voit apparaître des juges qui ont tous les caractères des juges inquisitoriaux. Leur première mission est de détruire le catharisme dans le sud de la France.
Mais il y a quand même une chose qui est dans la tête de tout le monde, c'est que l'Inquisition a créé des victimes. Des victimes qui ont été torturées et qui sont mortes, n'est-ce pas ? Combien d'abord ?
Pour l'Inquisition médiévale, il est difficile de donner même un ordre de grandeur. On sait que, assez peu, pour l'Inquisition elle-même, il ne s'agit pas de la répression des hérésies médiévales en général, mais responsabilité directe de l'Inquisition, assez peu. En Espagne, car il faut savoir que si l'Inquisition a été créée vers 1230, elle a sévi dans le sud de la France essentiellement, et en Italie jusque vers 1300. Au-delà, elle s'est endormie. On l'a ressuscitée à la fin du XVe siècle, vers 1500, en Espagne d'abord, puis vers 1540 au Portugal, et à peu près à la même date, en Italie.
On l'a ressuscitée pourquoi ?
Alors, en Espagne, pour lutter contre un groupe, ce qu'on appelle les conversos en espagnol, les judaïsants. L'Espagne et le Portugal avaient abrité pendant tout le Moyen-Âge des communautés juives très importantes. Ces communautés avaient été converties par la force, très souvent. Elles étaient en voie d'assimilation dans le monde chrétien. Mais l'assimilation n'était pas achevée. Et beaucoup des membres de ces communautés pratiquaient en secret le judaïsme. Et c'est contre eux qu'on a ressuscité l'Inquisition en Espagne et au Portugal.
Est-ce que c'est dire que l'Inquisition était antisémite ? Que l'Inquisition est la manifestation précisément d'une plaie du christianisme qui est l'antisémitisme ?
Elle a été ponctuellement en Espagne et au Portugal à l'époque que je vous disais, disons au XVIe et au XVIIe siècle, une manifestation d'antisémitisme. Encore qu'il faudrait nuancer ce mot, ce n'est pas exactement l'antisémitisme que nous avons maintenant.
On a connu sous Hitler.
C'est un peu différent. Quoique les résultats ont un air de parenté, à tout le moins. Mais en Italie, l'Inquisition ressuscitée du XVIe siècle n'a absolument pas été antisémite. Absolument pas. Ce qui l'a intéressé, c'est le protestantisme. Dans un premier temps, les luthériens, comme on disait, et dans un deuxième temps, et ce deuxième temps vaut également pour l'Espagne, le chrétien moyen. Le chrétien moyen que l'on accusait de ne pas connaître suffisamment son catéchisme et qu'il fallait convaincre d'étudier son catéchisme. Et pour cela, on a fait condamner par l'Inquisition, pas au bûcher, à des peines légères, mais condamnés par l'Inquisition, des gens dont le seul tort était de ne pas connaître la foi telle qu'elle était définie par le clergé, de manière à ce que les autres comprennent que connaître cela était très important, et que celui qui ignorait ce que nous avons connu, nous, comme le catéchisme, risquait de ne pas être sauvé.
Mais ce qu'on comprend mal aussi, c'est comment il se fait que le pouvoir laïque, le pouvoir politique, va tolérer une chose pareille. Enfin, il me semble que dans la société d'aujourd'hui, l'évêque de tel ou tel diocèse demanderait à un juge de mettre en prison, de torturer, etc., quelqu'un qui ne connaît pas son catéchisme, il dirait non. C'est donc que le pouvoir politique y voyait son intérêt.
À l'évidence, vous savez qu'on ne gouverne pas les peuples sans qu'ils aient un minimum d'idées communes, hein, un minimum de croyances communes. Bien, nous avons, nous, maintenant, des techniques qui permettent à l'État de faire ce travail d'homogénéisation tout seul. Bien, au Moyen-Âge et au XVIe siècle, ce n'était pas le cas. L'État ne disposait pas d'une école obligatoire où on allait apprendre aux gens un certain nombre de comportements communs. C'était l'Église qui faisait ce travail et qui le faisait en liaison avec l'État. Les deux avaient partie liée et évidemment s'appuyaient réciproquement. C'est un monde qui a disparu dans le courant du XVIIIe et en Europe dans le courant du XIXe siècle.
Qui a disparu sous quelle influence?
Fondamentalement, je crois, sous ce qu'on appelle la laïcisation de la société. Fondamentalement, je crois que ça consiste en un transfert d'un leadership culturel du clergé à d'autres groupes, à d'autres instances, parmi lesquelles l'État. Tous les pays ont connu une évolution semblable. Si vous prenez le cas de l'Espagne, qui a la réputation d'avoir été le pays le plus clérical d'Europe, dès le XVIIIe siècle, vous voyez l'État espagnol qui commence à s'éloigner de l'Église. Très progressivement, il commence à couper les liens avec Rome d'abord, avec l'Église après. Vous voyez ? Ça a provoqué des drames. Il y a eu des retours en arrière. Dans le cas de l'Espagne, je ne vous parlerai pas du dernier en date, qui a été le régime franquiste. Vous voyez ? Mais progressivement, l'État a assumé des tâches qui avaient appartenu à l'Église. Et il s'en est passé. Parce que l'Église, pour l'État, avait un énorme défaut. C'est qu'elle lui échappait. Il n'a jamais réussi à la contrôler entièrement. Le clergé était imprévisible. Ça, c'est un trait qu'on retrouve partout.
Mmh. Et qui continue en Amérique latine, par exemple. Donc, la période dont nous parlons quand nous parlons d'Inquisition, c'est une période qui va de la fin du XIIIe siècle qui s'arrête, selon vous, vers début du XIXe siècle.
Officiellement, les inquisitions espagnoles et portugaises sont abolies en 1820. Mmh. L'Inquisition dans le reste de l'Europe avait pratiquement disparu dès le début du XVe siècle. Tout simplement parce que les États avaient estimé à ce moment-là que s'ils avaient encore besoin de l'Église, ils n'avaient cependant plus besoin de ce tribunal précis qu'on appelait l'Inquisition.
Alors les résultats de l'Inquisition, regardons ça si vous voulez d'un point de vue, c'est ce qui intéresse la plupart des gens. Les résultats de l'Inquisition, c'est que on met des gens en prison, pire, on les torture, pire, on les met à mort. Combien de victimes?
Alors, je vous disais, je peux donner des chiffres pour l'Espagne. Le seul pays où l'on ait une idée d'un ordre de grandeur, c'est donc l'Espagne. À partir de 1480 jusqu'à 1820, donc en gros, un peu plus de 300 hommes, à peu près 8000 morts.
8000 morts.
Les deux tiers, au moins, dans les 30 premières années. Au-delà, très peu.
C'est énorme, 8000 morts.
C'est énorme en soi. C'est très peu si l'on le reporte à la population et aux pays concernés.
Expliquez-vous. Il me semble qu'un mort, ça suffit.
C'est ce que j'allais vous dire. Ce qui compte là-dedans, ce n'est pas les chiffres. Il n'y en eut qu'un, c'était un de trop. Ça suffisait, parce que, enfin, l'Inquisition est quand même un tribunal de l'Église. un tribunal qui condamne au nom du Christ. Et je ne vous cache pas que il m'a été parfois difficile de lire certaines choses. Mais il faut bien voir que ce qui intéressait les inquisiteurs, ce n'était pas de tuer les gens. C'était de tuer des cultures.
Pourquoi ?
Parce que pour eux, le christianisme ne pouvait admettre qu'une seule culture. Ils pensaient qu'ils avaient une conception très, qui nous paraîtrait à nous très étroite de ce que devait être le christianisme. Ils ne concevaient pas, par exemple, des choses qui maintenant sont complètement abandonnées, ils ne concevaient pas en Espagne qu'on puisse être catholique si l'on n'était pas en même temps thomiste, croyant enfin, pensant, connaissant la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Ils ne concevaient pas que l'on puisse être chrétien sans pratiquer un certain nombre de rites extrêmement précis. Bon, aller à la messe le dimanche, tout le monde le connaît, mais il y en avait beaucoup d'autres. Abstinence de viande le vendredi et le samedi, pendant le carême. Prière, réunion de prière, toute une série de choses, toute une série de formes de comportements qui, pour eux, étaient intimement liées au christianisme.
Est-ce que dire que les juges du tribunal de l'Inquisition étaient des hommes bornés ?
Non, c'était même, je crois, replacés dans leur époque, des gens particulièrement intelligents et relativement ouverts, mais qui avaient choisi, pour des raisons tactiques, qui avaient volontairement choisi de fermer la société dans laquelle à laquelle ils appartenaient. Vous voyez ? Eux-mêmes, j'en suis sûr, connaissaient beaucoup, beaucoup de choses. Mais d'un point de vue politique et d'un point de vue religieux, ils s'estimaient responsables des faibles, des ignorants. Et ils étaient convaincus qu'il fallait à tout prix leur éviter à eux, ces faibles et ces ignorants, d'être en contact avec des choses qui pourraient les mener sur des voies dont les conséquences seraient imprévisibles.
Dostoïevski va même jusqu'à nous présenter un inquisiteur qui serait un croyant.
À la limite, c'est concevable. Je dis bien à la limite. On peut estimer que pour des raisons politiques, un homme estime que les gens doivent croire en un certain nombre de choses, même si lui n'y croit pas. Il y a d'ailleurs eu des exemples historiques.
Mais est-ce que c'était des hommes, comme on l'a dit, cruels, retors, hypocrites enfin, il y a tout un portrait de l'inquisiteur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce portrait ?
Bon, la réponse est complexe. Encore une fois, on ne peut pas dire... c'est comme ci ou comme ça. Les inquisiteurs eux-mêmes étaient fondamentalement des juristes. Pour eux, ce qui primait tout, c'était le respect du droit. Ça a eu des résultats étonnants. Par exemple, les inquisiteurs, tant en Espagne qu'en Italie, au XVIe siècle, ont toujours refusé de croire à la sorcellerie et refusé de brûler des sorcières. Tout simplement parce qu'ils estimaient qu'en droit, ce délit n'était pas démontrable.
C'est étonnant ce que vous dites là, parce que, encore là, ça va contre les idées que je...
Oui, mais il faut bien voir que ce n'était pas par libéralisme ou par progressisme, c'était au contraire par conservatisme. L'idée que des gens puissent se réunir pour adorer le démon était, au XVIe siècle, une idée nouvelle. Vous voyez ? Et les inquisiteurs... Ils n'y ont pas cru parce que c'était trop nouveau. Et juridiquement, ils ont estimé que c'était indémontrable. Évidemment, s'ils avaient voulu estimer que juridiquement c'était démontrable, ils auraient trouvé des preuves. Tous les juges d'Europe trouvaient toutes les preuves qu'ils voulaient.
Donc le but de l'Inquisition, si je vous comprends bien, c'est donc d'amener les gens à penser d'une certaine façon, mais ce n'est pas, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, et je voudrais bien être sûr d'avoir compris, ce n'est pas de conduire des gens au bûcher.
Absolument pas. Pour eux, conduire quelqu'un au bûcher est un échec. Car nous avons dévié sur la sorcellerie, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à l'intérieur du procès inquisitorial, sous l'aspect juridique, sous la façade juridique, se déroule un drame psychologique. L'accusé est en prison. on l'y laisse moisir avec la menace d'une condamnation à mort. La menace de la torture, qui souvent est irréelle. On ne va pas le torturer, mais lui croit qu'on peut le torturer. Et on sait ce qui se passe dans ce cas-là. On arrive ainsi à briser des volontés, à briser des personnalités. Et ce que l'inquisiteur cherche à faire, c'est amener son prisonnier au point de rupture. Et à ce moment-là, le prisonnier va avouer, dire tout ce qu'il sait. Soit dit au passage, d'après ce que j'ai vu dans l'Inquisition espagnole, je suis à peu près convaincu que la plupart des gens accusés par l'Inquisition et condamnés par elle avaient fait ce qu'on leur reprochait. Des choses qui maintenant, pour nous, ne sont absolument plus des délits. Mais les faits pour lesquels on les avait arrêtés, je suis à peu près convaincu qu'effectivement, ils l'avaient fait. Vous voyez ? Alors, on le fait avouer. On lui fait avouer les noms de ses complices, entre guillemets, qu'on peut à leur tour arrêter. Et puis, une fois qu'il est complètement détruit, on lui présente le moyen de se reconstruire, de redevenir quelqu'un autour de la foi catholique, telle que la lui présente l'inquisiteur. C'est une tactique, une technique que l'on retrouve dans tous les régimes totalitaires. La CIA a chargé des psychologues de faire des études sur cette technique utilisée par les Chinois dans les années 1940. On retrouve pratiquement pas à pas le procès inquisitorial. C'est une tactique donc connue partout, sous une forme juridique, que dans le cas de l'Inquisition, on respecte, ce qui n'a pas été le cas de tous les régimes totalitaires. On brise des personnes. Et en brisant des personnes, on brise des sociétés.
Mais très bien, on peut peut-être dire que c'est comme ça pour la CIA, et ça ne concerne que la société américaine ou les sociétés que les États-Unis veulent mettre sous leur domination. Mais quand il s'agit d'une église qui se réclame à la fois de la vérité et de la charité, vous comprenez que c'est bien plus grave, et que cette église, du coup, perd toute crédibilité.
Évidemment que c'est grave. Et ces gens-là, je crois, savaient également qu'ils faisaient quelque chose de grave. Mais encore une fois, ils considéraient qu'ils avaient un devoir de charité supérieur, qui était celui de protéger les pauvres et les humbles, ceux qui n'avaient pas les moyens de tenir le choc face à des cultures extérieures, de les protéger de l'hérésie, ce qui risquait de les amener en enfer. L'Inquisition se considérait comme l'Église, ordonnée au bien commun. Tout ce qu'on faisait devait être dirigé vers le bien de la société dans son ensemble.
Et alors, peu importe les personnes.
Les personnes deviennent secondaires.
Mais si j'ai bien lu votre ouvrage, il y a quand même une grande part d'exagération dans tout ce qui circule autour de ce sujet, l'Inquisition.
C'est là le drame. On a beaucoup exagéré et en même temps, on a tué ce qui, à mon sens, est le plus terrible. Le caractère de... Le fait que l'Inquisition pratique des ethnocides, elle tue des civilisations. Alors, on a effectivement beaucoup exagéré en insistant, par exemple, sur le nombre des morts, qui, encore une fois, comparé à ce que faisaient les tribunaux normaux, les tribunaux courants, est relativement faible. On a beaucoup exagéré en parlant de la torture. Il est vrai que l'on torturait des gens, mais relativement peu, et en appliquant des règles qui n'étaient nullement celles du droit inquisitorial, mais qui étaient celles du droit commun de l'époque. On a beaucoup exagéré tout cela, essentiellement au XIXe siècle.
Pourquoi ? Et qui ?
Les libéraux. Je vous ai dit qu'au XIXe siècle, l'Église et l'État, et les États s'étaient séparés. Et au XIXe siècle, l'Inquisition a été utilisée par les partisans laïcs de cette séparation comme une machine de guerre contre l'Église.
Mais avec raison. L'Église avait prêté flanc à ses attaques.
Oui, mais l'État aussi. Parce que l'Inquisition n'a jamais pu fonctionner que lorsqu'il y a eu symbiose entre l'Église et l'État. L'Inquisition n'a jamais eu de soldats. Elle avait une milice de familiers qui considéraient leur poste comme honorifique et qui refusaient absolument à être mêlés à des besognes policières.
Alors l'État accusait l'autre pour se dégrever lui-même de...
Pour se dégrever et en jouant aussi sur l'expérience du XVIIIe siècle. Parce que je vous ai dit qu'au XVIIIe siècle, cette séparation avait commencé. Or, au XVIIIe siècle, l'Église a essayé d'utiliser l'Inquisition pour lutter contre les personnes qui, à l'intérieur de l'État, étaient partisans de la séparation. Et il y a eu en Espagne en particulier quelques procès très célèbres où des administrateurs ont été accusés par l'Inquisition. Ce qu'on leur reprochait fondamentalement, c'était de vouloir séparer ou commencer à séparer, car eux-mêmes ne concevaient pas une séparation de l'Église et de l'État comme nous la connaissons aujourd'hui en France, mais de commencer à les séparer. Alors évidemment, ils se sont retournés contre eux. L'Inquisition a détesté les philosophes du XVIIIe siècle. Elle a été une machine de guerre contre eux. Évidemment, ils l'ont bien rendu.
Mmh. Qu'est-ce que ça vous a pris à vous d'étudier cette question de l'Inquisition? Parce qu'il y a quand même des questions un peu plus joyeuses, non?
Joyeuses, vous savez, le travail de l'historien, quand il est dans son laboratoire, est pour lui un extraordinaire plaisir. C'est le travail du sculpteur, ça y ressemble un peu, vous êtes en train de constituer quelque chose, de le créer, vous le voyez naître sous vos mains. Vu de l'extérieur, c'est extrêmement austère. L'histoire est un métier que l'on ne pratique que si on a une véritable vocation. Et j'avoue que je me suis énormément passionné par ce que je faisais, parce que j'ai vu naître, le simple fait de voir naître quelque chose sous mes mains, m'a terriblement intéressé. Bon, ceci dit, il n'y a pas eu que ça. Comme je vous disais, je suis catholique. Et j'ai été passionné par les expériences que j'arrivais à vivre à travers l'Inquisition. J'arrivais à vivre l'expérience religieuse d'autres personnes. Pas seulement celle des inquisiteurs, d'ailleurs, mais aussi celle des gens qui poursuivaient. Bon, je vous avoue que l'expérience religieuse des judaïsants ne m'intéressait pas extraordinairement, alors que j'ai vu des collègues juifs absolument fascinés par cela. Mais lorsque les inquisiteurs avaient devant eux un chrétien comme moi, un chrétien moyen, du XVIe siècle, qui était obligé de leur expliquer ce qu'il croyait, la manière dont il vivait sa foi, c'était à mon tour être fasciné.
Est-ce que le problème, au-delà de ce problème de l'Inquisition, n'est pas le suivant, finalement? Est-ce qu'un pouvoir, qu'il soit religieux, qu'il soit politique, peut imposer aux autres comment et quoi penser?
C'est finalement le problème capital. Nous avons tendance à répondre que non. Les inquisiteurs vous répondaient qu'une société dans laquelle cela n'existait pas, ne pouvait pas exister. Et pour l'expliquer, ils utilisaient une assez belle histoire. Savez-vous quel fut le premier procès inquisitorial d'après eux? Non. Eh bien, c'est celui que Dieu a fait à Adam et Ève après qu'ils aient mangé le fruit défendu. Et vous avez les histoires de l'Inquisition, des traités inquisitoriaux d'un sérieux indéniable, qui commencent par décrire ce premier procès. Par exemple, Dieu appela trois fois Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ce sont les trois monitions canoniques auxquelles on devait procéder. C'est la convocation. Enfin, ils y retrouvent tout. C'est pittoresque pour nous. Mais à travers cela, ils cherchent à exprimer ce fait. C'est que s'il n'y a pas un minimum d'homogénéité culturelle dans un pays, un certain nombre de règles que tout le monde doit respecter, il n'y a pas de société possible. Ils étaient conscients du problème. Ils lui ont donné une réponse. C'était la leur. Nous pouvons, nous, être d'accord ou non. Le travail de l'historien, c'est expliquer ce que eux voulaient faire. Juger, c'est à son public de le faire.
Mais comme citoyen, on peut se demander si la réponse a trouvé sa solution.
Dans mon fort intérieur, je suis convaincu que non. Vous le savez bien. Nous vivons dans des pays démocratiques où nous jouissons, à titre personnel, d'un certain espace de liberté, limité d'ailleurs, mais qui existe, qui est réel. Et combien de pays connaissent cela au monde? Pratiquement aucun. Et même chez nous, il y a toujours un débat pour savoir quel est l'espace de liberté que l'on doit donner, où est l'équilibre. C'est le problème fondamental de toutes les sociétés.
Et quand ça ne vient pas de la religion, ça vient de l'État. Quand ça ne vient pas de l'État, ça vient du pouvoir économique. Il y a toujours une tendance, un pouvoir quel qu'il soit.
Il y a toujours un pouvoir, mais attention, quand vous dites pouvoir économique, toutes les coercitions ne sont pas de la même nature. Une coercition économique, c'est un type de coercition. Vous avez aussi des coercitions psychologiques, qui sont celles qui intéressaient véritablement l'Inquisition. Et qui sont celles qui intéressent l'État lorsqu'il s'occupe, par exemple, d'éducation. Et donner aux gens des normes de comportement telles qu'ils vont agir spontanément comme il faut, ou comme on l'attend. Au fond, l'État parfait, ça serait l'État où il n'y aurait pas de police. Et pour les inquisiteurs, la société parfaite, ça aurait été la société où il n'y aurait pas eu besoin d'inquisition.
Jean-Pierre de Dieu, je vous remercie.
Rappelons que Jean-Pierre de Dieu, qui est un spécialiste de l'histoire de l'Inquisition, a publié aux éditions du Cerf une synthèse de ses recherches et découvertes récentes intitulée « L'Inquisition ». Jean-Pierre de Dieu nous faisait remarquer que le XXe siècle a été témoin d'effroyables inquisitions. Le nazisme, environ 10 millions de morts en 10 ans. Le communisme russe, environ 20 millions de morts en 40 ans. Le communisme chinois, environ 30 millions de morts en 20 ans. L'inquisition proprement dite aurait fait environ 10 000 morts en 6 siècles. On pourra consulter le Dictionnaire des religions de Paul Poupart, paru aux Presses universitaires de France en 1984. On y trouve un bon article sur l'Inquisition et une intéressante bibliographie. Aussi, l'Inquisition espagnole de Bartolomé Benassar, paru dans la collection Marabout en 1979, et surtout l'Inquisition ou la dictature de la foi de Jacques Pinglet, publié par la librairie académique Perrin en 1983. L'intéressante revue Notre Histoire a rassemblé d'excellents articles dans son numéro de juin 1987. On y trouve d'ailleurs un article de Jean-Pierre de Dieu.